Je voudrais remercier tout d'abord les professeurs Conry et Dupont de m'avoir invité à participer à cette session, parce que la psittacose, c'est un sujet d'actualité. Alors, je ne sais pas si le bonheur est dans le pré, mais en tout cas, la psittacose, elle, y est. Et après, c'est là ? D'accord. Donc, je vous parlerai, en gros, de quelques données bactériologiques, et je vous parlerai en particulier des difficultés diagnostiques de cette pathologie, des données épidémiologiques des animaux, enfin, chez l'animal et chez l'homme, et je vous parlerai, bien sûr, de l'étude qui est en cours et qui est coordonnée par l'Institut de veille sanitaire. Donc, pour vous rappeler d'abord que Chlamydia psittacea est une protéobactérie qui appartient à la famille des Chlamydiacées, qui a fait récemment l'objet d'une refonte de sa taxonomie, puisque maintenant il y a deux genres, et qu'on ne parle plus de Chlamydia psittacea, mais de Chlamydophila psittacea. Mais vous me verrez, j'emploierai aussi bien le terme Chlamydia que Chlamydophila. Donc, dans ce genre Chlamydophila, vous avez beaucoup d'espèces d'intérêt vétérinaire. Vous n'avez que Chlamydia pneumoniae qui est chez l'homme. Donc, les Chlamydia sont des petites bactéries intracellulaires, vous le savez, qui fait intervenir deux phases. Le corps élémentaire qui est extracellulaire ici et qui va pénétrer dans une cellule. Ce corps élémentaire se transforme en corps réticulé qui se multiplie, qui se retransforme en corps élémentaire, et les corps élémentaires néoformés vont pouvoir aller infecter d'autres cellules. Les difficultés diagnostiques sont liées au fait que les symptômes cliniques ne sont pas du tout spécifiques de chlamydiose. Ce sont des syndromes grippaux, mais la maladie peut se compliquer, donner des pneumopathies et même un syndrome de détresse respiratoire aiguë, accompagné de diarrhées, de vomissements et de nausées. C'est une maladie systémique et donc on peut voir des manifestations extra-respiratoires à type d'endocardite, de myocardite, voire de méningite et d'encéphalite. Les difficultés diagnostiques sont liées également aux insuffisances du diagnostic biologique, parce qu'il n'y a pas de test direct commercialisé, et les tests sérologiques sont non spécifiques, en particulier en raison des réactions croisées. Il faut savoir que les chlamydioses respiratoires chez l'homme peuvent avoir des réservoirs variés, l'homme, l'environnement ou l'animal. L'homme, donc, c'est Chlamydia pneumoniae, la souche toire qui donne des infections à type de pharyngite, de bronchite, voire de pneumopathie. C'est une espèce qui est très ubiquitaire, la séroprévalence est élevée, et là le diagnostic différentiel est difficile avec les viroses respiratoires, mais également les bactéries opportunistes telles que le pneumocoque et Mycoplasma pneumoniae. L'environnement aussi est une source de réservoir de chlamydia, en particulier récemment ont été mis en évidence les parachlamydia et les imcania qui peuvent donner des infections respiratoires, et les parachlamydia héberge les amibes dans l'eau, et là le diagnostic différentiel se fera avec un autre pathogène de l'eau, ce sont les légionelles. Et enfin l'animal, donc c'est Chlamydia psittacea, et là bien sûr vous connaissez le diagnostic différentiel qu'il faut faire avec la grippe aviaire et aussi un autre pathogène que sont les Coxiella. Donc les difficultés diagnostiques à cause de la recherche directe est difficile, qui se fait à partir de prélèvements qui peuvent être simples, comme un écouvillonnage de gorge ou des crachats, ou alors des prélèvements plus profonds, type de lavage bronchoalvéolaire, de liquide pleural, voire de LCR. Comme technique disponible, il y a bien sûr la culture cellulaire, qui a l'avantage d'être sensible et spécifique. Vous savez que Chlamydia psittacea est une bactérie extrêmement robuste, qui vit, vous verrez, dans les plumes et les déjections des oiseaux. Le problème, c'est que la culture cellulaire est un acte réservé et surtout qui nécessite l'utilisation d'un laboratoire de haute protection, étant donné la contagiosité extrême de cette bactérie. Et en plus, le délai de réponse est quand même retardé. Donc, il y a d'autres techniques possibles. Des tests rapides comme l'immunochromatographie qui est utilisée pour Chlamydia trachomatis a été essayé, mais très peu sensible. Et finalement, ce sont les tests de détection des acides nucléiques qui peuvent être utilisés. Mais il n'y a pas de tests commercialisés. Et donc, il faut mettre sa technique au point, ce qu'on appelle les PCR maison. Et dernièrement, les PCR en temps réel permettent de faire un diagnostic quantitatif, ce qui est particulièrement utilisé chez les oiseaux pour étudier la charge bactérienne chez l'oiseau. Ce sont des techniques extrêmement sensibles. Donc, La recherche d'anticorps est encore très utilisée, ce qu'on appelle la sérologie, par une technique qui est une technique d'immunofluorescence qui utilise des lames commercialisées, vous voyez, à trois spots, dans lesquels il y a des corps élémentaires de ces trois bactéries, Chlamydia pneumoniae, Trachomatis et Psittacii, cultivés sur œufs, c'est pour ça que vous avez un contrôle sac-vitellin. Ici, vous avez un positif et là un négatif. Donc, c'est une lecture difficile et surtout en raison des réactions croisées. La MIF a une meilleure sensibilité que la fixation du complément. Elle a l'intérêt de permettre la détection des IgM, qui sont très intéressantes, sont très spécifiques, mais peu sensibles. Par contre, les IgG, on les détecte facilement, mais c'est peu spécifique, en raison des réactions croisées avec les autres chlamydia, mais également les autres bactéries responsables d'infections respiratoires. Donc finalement, quels sont les critères diagnostiques? Je vous les ai rassemblés ici. On dit qu'un cas est confirmé si la recherche directe est positive, quelle que soit la technique, culture ou PCR, ou si l'on observe une séroconversion ou une augmentation du titre des anticorps, ce qui oblige à faire deux sérologies au moins à 15 jours par 3 semaines d'intervalle. Un cas est dit probable s'il y a des IgM, quel que soit le titre des IgG, ou si le titre d'IgG est élevé, supérieur ou égal à 128, avec ou en présence ou non d'IgM. Et les cas possibles sont les cas avec des sérologies basses, entre 32 et 64 sans IgM, ou un titre stable d'IgG, ou encore un lien épidémiologique avec un cas confirmé. Donc, en ce qui concerne les données épidémiologiques chez l'animal, vous savez, le portage a été décrit chez plus de 450 espèces d'animaux, d'oiseaux, que ce soit des oiseaux domestiques, des oiseaux de volière ou des oiseaux sauvages. Chlamydia psittacii peut être trouvée chez les oiseaux présentant des symptômes ou non, donc c'est vraiment un portage dit asymptomatique. Cette bactérie colonise le tractus digestif, mais aussi le tractus respiratoire. Et l'oiseau excrète la bactérie quand il est en période de stress. Et vous allez voir dans sa vie, on va voir un petit peu, qu'il a beaucoup de stress, ce pauvre canard. Et c'est un problème de santé publique, hein, puisque c'est une zoonose, et l'homme s'infecte par inhalation d'aérosol. Vous verrez que les professionnels sont très en contact d'aérosol, et en contact direct avec les fientes ou les sécrétions respiratoires infectées. Chlamydia psittacii est une espèce extrêmement hétérogène, et on a identifié des sérotypes, ou des génotypes, comme on veut, spécifiques des aviaires, ici, ou des mammifères, et le sérotype C est très spécifique du canard. On peut le mettre en évidence par des techniques de PCR-FLP, mais ce qui ne permet de distinguer que les génotypes. C'est pour ça que d'autres techniques sont venues plus discriminantes, et en particulier la MLVA, qui a été mise au point par Karine Laroubco à l'AFSA, et qui permet, vous voyez, en déterminant le nombre de séquences répétées dans un gène particulier. Ici, vous avez 4 séquences répétées. Je ne vois pas bien d'ici, mais enfin, c'est 1, 2, 3, 4 séquences répétées, de déterminer des génotypes. Et vous voyez qu'on a pu identifier 19 génotypes au lieu de 6 sérovars. Donc, on va regarder un petit peu la vie des canards en France. Vous avez deux itinéraires techniques, soit les palmipèdes qui vont donner du foie gras, soit les palmipèdes à rôtir. Donc les palmipèdes à foie gras vont nous intéresser parce que ces palmipèdes ont un parcours dans le pré, alors que les palmipèdes à rôtir sont en claustration. Donc on va regarder un petit peu ce que c'est que la vie du canard à engraisser. C'est donc le canard mulard. Le canard mulard, c'est un croisement entre un mâle barbarie et une canne. Il donne des hybrides stériles, des mâles et des femelles. Les mâles vont aller au gavage et les femelles vont être éliminées. Ou alors serviront de canettes à rôtir. Donc la production de foie gras, vous voyez, c'est essentiellement le canard mulard. La production est assez localisée, comme vous pouvez le remarquer, dans le sud-ouest, et vous avez aussi en Pays de Loire. Donc au départ, vous avez les reproductrices qui vont donner des œufs. Donc au niveau des reproductrices, on appelle ça des parquets. Alors ils ont des langages extrêmement intéressants, les vétérinaires. Donc les reproductrices sont sur des parquets, donnent des œufs, qui vont être mis en couvoir. Les canetons d'un jour vont être séparés, mâles et femelles, et vont passer chez les éleveurs. Bon, pendant 12 semaines, les éleveurs, vous allez voir, vont les mettre en forme pour être prêts à gaver, et ensuite, ils vont passer chez les gaveurs. Vous voyez, on les répartit. Vous voyez, donc, on part des reproducteurs, et on arrive aux gaveurs, et on a disséminé, comme ça, ainsi, l'infection, s'il y en avait. Donc ici, vous avez les reproductrices en ponte, avec ici, là où elles pondent, là, les petites cages, hein. Ici, vous avez une activité qui est très à risque, qui est l'insémination artificielle. Ici, vous voyez les pattes, donc la canne est à l'envers, vous voyez. Et ici, on l'insémine artificiellement. Et ce stade est extrêmement stressant pour la bête. Ensuite, vous avez ici le couvoir. Vous voyez, les personnes portent des masques. Et là, on sépare les mâles des femelles, puisque les mâles vont être gavés et les femelles tuées. Ensuite, ça passe à l'élevage, avec 12 à 3 semaines d'élevage, où là, l'objectif, c'est de les faire grandir et surtout de les préparer au gavage, préparer les hépatocytes à la surcharge. Ensuite, en période d'élevage, ils font d'abord un démarrage en canetonnière et ensuite, on les passe dans le pré. Et voilà, c'est là où elles sont dans le pré, puisque le passage dans le pré, c'est la santé. Après, on passe chez le gaveur. Donc, il y a deux styles de gavage, soit sur des caillebotis, soit en cage individuelle. Et tout ça est fait dans une ambiance maîtrisée. Vous allez voir ici, vous voyez, les ventilateurs. Donc, c'est largement aéré, alors que c'est plein de petites assises. Ou alors, humidifié avec ses pattes cooling. Et enfin, ça passe à l'abattage. Et vous voyez ici les canards qui sont suspendus vivants et qui agitent leurs ailes avec frénésie et dispersant ainsi largement les chlamydia. Donc les données humaines dont nous disposions, c'est une maladie qui n'est pas à déclaration obligatoire, donc c'est pas facile de recueillir les données. Donc ces données émanent du CNR, puisque nous rapportons tous nos cas à l'Institut de veille sanitaire. Donc on a rapporté à peu près 60 cas sur les 3 dernières années, ce qui fait à peu près une vingtaine de cas par an. Il s'agit d'hommes, dans la plupart des cas, d'un âge médian 53 ans et nécessitant pour la plupart une hospitalisation. Et ces cas concernaient le sud-ouest et l'ouest. Vous voyez, les expositions peuvent être personnelles, donc avec des oiseaux d'ornement ou professionnels. Et là, le canard est majoritaire. Donc c'est pour ça que l'Institut de veille sanitaire, manquant de données, a décidé de faire cette étude descriptive sur la psittacose qui a donc démarré en janvier 2008 de cette année, dont l'objectif est de déterminer l'incidence des cas humains hospitalisés, de connaître la fréquence des cas groupés, c'est important pour voir les pseudo-épidémies, les petites épidémies, et d'identifier les risques d'exposition des patients. Les critères d'inclusion, donc être âgé de plus de 15 ans, présenter des signes respiratoires évocateurs et être en lien avec des oiseaux. Et vous pouvez trouver, tous ces résultats sont actuellement disponibles sur le site de l'Institut de veille sanitaire. Donc le schéma simplifié est le suivant. Les centres hospitaliers volontaires, il y en a 81, il y a des CHU et des hospitaliers, quand ils ont un cas suspect, préviennent les CIR correspondantes, qui prévient le CNR. Les centres hospitaliers envoient le prélèvement au CNR. Il s'agit d'écouvillons de gorge ou de sérum. Le CNR, bien sûr, renvoie les résultats au centre hospitalier et à l'Institut de veille sanitaire. Si le cas est positif et confirmé, les prélèvements partent à l'AFSA, qui préviendra la DDSV, qui pourra alors à ce moment-là organiser une enquête au niveau de l'élevage concerné. Et tout ça est relayé jusqu'à l'Institut de veille sanitaire. Donc sur la période janvier à fin juin de cette année, 21 cas suspects ont été notifiés, 8 cas confirmés, 8 cas PCR plus sur 17. Vous voyez que la PCR, c'est un examen qui est très sensible et très intéressant, parce que la sérologie, elle, l'est beaucoup moins. Dans ces cas-là, c'était moitié-moitié personnel professionnel. Ce qui est intéressant dans les cas professionnels, c'est de voir que l'élevage était en cause dans 5 cas, le gavage dans 2 cas, l'abattage dans 3 cas. Donc vous avez bien repéré maintenant le circuit. Et que dans les cas investigués par l'AFSA, il y a pu avoir une parfaite corrélation entre les cas humains et les sources d'exposition. Donc les 21 cas suspects, les voici, il s'agissait d'hommes en majorité, donc toujours cet âge moyen assez élevé de 53 ans, avec un délai médian d'hospitalisation de 4 jours et demi, une durée d'hospitalisation de 6 jours. Et comme vous voyez, les services concernés, c'est en premier lieu la réanimation, en particulier dans les cas de détresse respiratoire, donc les réanimateurs, ensuite les infectiologues, médecine, urgence, pneumologue et autres services. Pour 20 cas, les principaux symptômes, donc c'était la fièvre, dans pratiquement tous les cas, la toux, une pneumopathie et dans 8 cas, une détresse respiratoire. Le traitement antibiotique a été administré dans un délai d'environ 5 jours. Ici, vous avez les départements de ces cas. Donc, vous voyez que c'est essentiellement les Pyrénées-Atlantiques, là où vous avez le plus de gavage, mais également le Maine-et-Loire, si vous voyez, voilà, ici le Maine-et-Loire, et le Loire-Atlantique, c'est-à-dire donc les Pays de Loire. Mais vous en avez aussi ici dans les Deux-Sèvres. Donc en conclusion, on pourra dire que donc, les données 2005-2007 ont mis en évidence un certain nombre de cas humains, avec donc des cas sévères, que l'étude en cours, qui donc doit se prolonger jusqu'à fin 2009, devrait permettre de mieux apprécier l'incidence des cas humains hospitalisés et la fréquence des cas groupés, et que les investigations vétérinaires menées en parallèle devraient permettre une meilleure compréhension des sources et surtout une mise en place des mesures de protection qui sont recommandées, comme le port de masques, etc. Et enfin, je voudrais remercier donc tous les membres de personnes qui participent à ces enquêtes, en particulier donc dans le laboratoire de bactériaux, Maïté Claire et Françoise Aubeniche, qui sont les chevilles ouvrières de tout ce travail, à l'Institut de veille sanitaire Isabelle Capet, qui s'occupe activement de cette enquête, et à l'AFSA, Karine Larouco, qui a mis au point un certain nombre d'outils. Je vous remercie de votre attention.